Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. C'est une technologie qui fascine autant qu'elle inquiète, qui facilite la vie autant qu'elle peut l'encadrer. La reconnaissance faciale fait déjà partie du quotidien de nombreuses personnes, ne serait-ce que pour débloquer son téléphone. Mais les expériences se multiplient pour d'autres usages, l'identification pour accéder au site internet administratif, pour embarquer dans un avion, mais aussi pour des raisons de sécurité dans l'espace public ou comme en Chine, pour mettre en place un véritable outil de contrôle social. Et c'est cela qui inquiète au point que certaines villes américaines ont interdit l'utilisation par leurs forces de sécurité de la reconnaissance faciale. Reconnaissance faciale, sécurité ou liberté en danger, c'est la question du jour. Et pour en parler, deux invités sont avec nous en studio. Didier Bécher, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes député La République En Marche du département des Yvelines, vice-président de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Et Benoît Piedalu, bonjour.
Bonsoir.
Vous êtes membre de la Quadrature du Net, qui est une association qui promeut et défend les libertés fondamentales dans l'environnement numérique. La reconnaissance faciale, c'est une technologie qui se développe partout, qui est portée par de très grandes entreprises. Est-ce que c'est une technologie qui est d'ores et déjà très présente, voire inévitable, Didier Bécher?
Alors, très présente, j'irai pas jusque là, mais c'est vrai que il y a depuis, en tout cas moi je m'y intéresse depuis 12 mois avec l'Office des sciences et technologies, c'est vrai qu'il y a un développement qui s'accélère. On le voit ne serait-ce que depuis qu'on débloque très facilement nos téléphones et sans se poser de questions, parce que c'est bien ça aussi le sujet, c'est qu'on se pose pas vraiment la question de ce qu'on est en train de faire, donc on débloque nos téléphones avec la reconnaissance faciale. Donc on a commencé à en parler, je pense, assez largement dans ce cadre-là. Il y a plusieurs expérimentations qui ont lieu à droite et à gauche, qui posent des questions, hein, puisque la CNIL régulièrement elle donne pas vraiment un avis puisque c'est pas son rôle, mais enfin en tout cas elle peut faire des recommandations à un moment donné sur ces expérimentations, et on voit bien que le cadre, en tout cas c'est mon sujet en tant que député, on voit bien que le cadre manque pour pouvoir avancer. On a des champions français ou européens sur ces sujets-là qui eux aussi ont envie de mieux entraîner leur algorithme. On aura sûrement l'occasion de parler des biais de la reconnaissance faciale, hein, et ça c'est vraiment aussi au cœur de l'interrogation, en tout cas au cœur de l'interrogation que nous avons à l'Office des sciences, c'est finalement nous testons pas les outils, les algorithmes qui font fonctionner la reconnaissance faciale, on pourra pas savoir s'il y a des biais français, européens, qui joueront contre les citoyens à un moment donné. Et c'est tout l'enjeu de la réflexion que nous menons actuellement avec plusieurs parlementaires.
Benoît Piedalu, comment est-ce que vous appréciez ce développement un peu exponentiel et puis peut-être un petit peu sauvage de la reconnaissance faciale?
Oui, il faut voir qu'il y a tout un tas d'usages différents. Hein. Vous parlez de l'ouverture de son téléphone mobile avec la reconnaissance faciale. Il faut bien voir qu'on ne parle pas de ce genre d'usage aujourd'hui. On parle de l'usage de la reconnaissance faciale par le gouvernement, par les États, par des entreprises qui n'a absolument pas du tout le même impact que celui de juste ouvrir son téléphone mobile sur sa propre décision, sur son propre appareil. Donc là, vraiment, l'impact est très différent. J'étais assez surpris de vous entendre dire que la CNIL n'avait pas de rôle de donner un avis. C'est justement ce qu'elle a fait ces derniers temps en reconnaissant que la reconnaissance faciale utilisée dans le cadre de l'accès à un lycée était illégale et qu'il ne fallait pas utiliser cette technologie-là parce qu'elle n'était absolument pas proportionnée au but recherché. Elle aurait pu très bien être remplacée, et d'ailleurs elle est remplacée tous les jours dans tous les lycées de France et de Navarre par d'autres systèmes, par exemple l'usage de surveillants. Et en fait, c'est un très gros problème aujourd'hui, c'est que ce que veulent faire les entreprises françaises qui souhaitent utiliser la reconnaissance faciale et développer leurs usages, qui sont d'ailleurs de manière assez surprenante, largement soutenue par le gouvernement, qui devrait plutôt s'attacher aux libertés des citoyens plutôt que de soutenir ce type de technologie dans ces entreprises. Ce qu'elles veulent, en fait, c'est pousser cette technologie au maximum, alors que elles peuvent être largement utilisées. On peut largement faire la même chose d'une autre manière.
Alors, avant d'aller sur les implications juridiques et politiques, d'ailleurs, puisque ça vient d'être soulevé, de cette technologie de la reconnaissance faciale, une question peut-être très simple. Est-ce que c'est une technologie qui est fiable? Est-ce que ça permet à coup sûr d'identifier les gens? Est-ce qu'il n'y a jamais d'erreur, Didier Bécher?
Si, si, bien sûr, il y a des erreurs et les questions de fiabilité sont au cœur, en fait, de la volonté d'expérimenter, d'aller plus loin sur ces sujets. Après, la fiabilité, c'est pareil, ça ne veut pas dire grand-chose parce que est-ce qu'on aura besoin, dans tous les cas d'application de la reconnaissance faciale, du même niveau de fiabilité des algorithmes? Si vous êtes sur des sujets de sécurité, par exemple, le cas qui est déjà installé, hein, qu'on connaît tous, qui est Paraf, dans le système Paraf, donc qui est déployé dans les aéroports, où on compare, en fait, le gabarit, votre photo qui est sur votre passeport avec une prise vidéo en direct, vous passez le portique et donc la vidéo compare si la photo qui est sur le passeport est bien la même personne.
Ça remplace le douanier, le contrôle douanier, c'est ça?
Oui, c'est un des contrôles d'accès. Ouais, et ouais. Il faut savoir d'ailleurs pour Paraf, parce qu'il y a beaucoup de fantasmes sur le sujet, dès l'instant où les portes s'ouvrent, en fait, l'ensemble des données sont supprimées. Donc, évidemment, quand on va être sur des sujets de sécurité, on s'imagine qu'on va vouloir avoir un niveau de performance élevé. Mais peut-être que dans d'autres applications, on a distingué aujourd'hui, en tout cas dans la réflexion, trois niveaux d'application. Le niveau sécurité, effectivement. Le niveau gestion de flux, qui peut être un niveau qui peut nécessiter un peu plus de souplesse. Et puis, les cas d'usage, en fait, plus commerciaux, des promotions qu'on pourrait vous faire en fonction de la morphologie de votre visage. Si un jour, on expérimente ce sujet-là et si un jour, les Français décident d'y aller. Donc, il y a de toute façon, c'est pas un système qui fonctionne à 100%. Et encore une fois, il y a des biais, il y a plein d'exemples. Alors encore une fois, les exemples, ils sont aux États-Unis. Et moi, c'est ce qui m'embête aujourd'hui, enfin aux États-Unis ou en Chine, c'est que les algorithmes, ils ont tourné sur des populations aux États-Unis, où, enfin, le cas est très connu, hein, puisqu'on dit que sur la reconnaissance faciale, les algorithmes ont du mal à reconnaître les femmes noires. Donc c'est quand même un biais très très important.
Ça fait une bonne partie de la population,
voilà,
effectivement. Oui.
Mais est-ce que avec des photos françaises et européennes, est-ce qu'on va retrouver les mêmes biais ou est-ce qu'on retrouvera d'autres biais? Et
C'est un faux problème que nous
chercherons à découvrir.
Alors Benoît Piedalu, allez-y. C'est un faux problème
parce que c'est inhérent à la technologie. On n'a pas besoin d'aller dire il faut absolument soumettre l'ensemble des Français à des expérimentations. Je vous rappelle qu'on parle d'expérimentation, c'est-à-dire de transformer les Français comme des rats de laboratoire. Et de les soumettre en permanence à des captations de leur visage dans l'espace public sans les prévenir, comme c'était
le cas. L'expérimentation, c'est pas le cas. Si vous faites une expérimentation, c'est justement avec des gens qui sont volontaires. Donc, faut pas.
Quand c'est dans l'espace public, comme on parle dans les rues des villes aujourd'hui, vous n'allez pas faire signer une autorisation, une décharge à chaque personne qui passe dans la rue aujourd'hui.
Il y a actuellement des expérimentations dans l'espace public.
L'expérimentation de la ville de Nice, c'est 3500 personnes volontaires qui ont donné un consentement individuel pour participer à l'expérimentation.
Vous parlez de l'expérimentation au moment du carnaval de Nice.
Oui, tout à fait. Voilà. Si on regarde toutes les expérimentations qui n'ont pas été faites en France, je pense aux aéroports en Allemagne, au transport de train en Angleterre, c'était systématiquement avec des personnes volontaires, donc qui avaient donné leur consentement pour pouvoir participer à l'expérimentation.
Benoît Piedalu, le système de contrôle et de crédit social que met la Chine en place actuellement, est-ce que c'est ça qui vous inquiète? Est-ce que la finalité, ça peut être ça? Est-ce que sans contrôle, on peut arriver à des extrémités pareilles? C'est ça qui vous inquiète?
En fait, le crédit social, c'est un usage de cette technologie. Il faut bien voir que cette technologie sert à mettre dans des bases de données l'ensemble des gens qui vont passer dans les flux vidéo. Aujourd'hui, la vidéosurveillance a démontré qu'elle n'avait à peu près aucun impact sur la sécurité des citoyens. Elle a un impact de croyance qu'il y a plus de sécurité, mais en réalité, elle a très peu d'impact. Mais ce qu'elle pose comme problème, c'est que la quantité de flux vidéo qui est déversée dans les centres de surveillance urbain est totalement incompatible avec une surveillance humaine. Donc, l'étape suivante, c'est de rajouter de l'intelligence artificielle qui va mettre dans des cases chaque personne rencontrée, à quel endroit elle était, qui elle a rencontré, qu'est-ce qu'elle faisait, etc. etc. Et c'est ça le gros problème, c'est... Qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces informations qui vont potentiellement transformer chaque citoyen
en délinquant potentiel, en suspect potentiel.
On retourne la charge de la preuve, c'est-à-dire que chaque personne va devoir prouver qu'il était innocent parce qu'on l'a vu rentrer à tel endroit, et puis peut-être que c'était dû à tel
aussi. Je pense qu'il faut être très précis sur ces sujets parce que
l'efficacité de ces technologies en matière de sécurité.
Juste un mot là-dessus, parce qu'on empile les contre-vérités. Donc il s'agit pas de remplir des bases de données. Donc déjà aujourd'hui sur la vidéoprotection, et on pourrait faire une émission uniquement sur la vidéoprotection et sur sa performance, et là je vous rejoins sur le sujet, les bandes sont confiées observer 30 jours, ensuite elles disparaissent. Aujourd'hui, quand on veut faire une enquête avec de la vidéoprotection, c'est un juge qui, dans le cadre d'une enquête, va décider, va demander les bandes et va regarder les bandes. Donc il n'est pas question de faire autre chose aujourd'hui. Quand vous regardez tous les systèmes et les technologies qui sont déployées aujourd'hui, inventées par des sociétés françaises, hein, je pense à l'Imprimerie Nationale, il y a des systèmes de tokens qui vous permettent de supprimer les données immédiatement dès l'instant où elles ont été utilisées pour justement ne pas avoir à constituer des bases de données. Et on tient énormément en France, mais également en Europe, au règlement RGPD, à la loi informatique et liberté. Donc c'est la voix française, encore une fois, elle est extrêmement importante et beaucoup de pays, en fait, nous envient cette capacité à trier et à mettre la liberté individuelle avant tous les enjeux technologiques.
C'est là un peu où est le problème. C'est-à-dire que si on était aussi attentif au RGPD, à ce que dit la CNIL et autres, on ne mettrait pas en place des systèmes qui sont déclarés comme illégaux, puisque la CNIL a donc déclaré les systèmes qui étaient préparés à Saint-Etienne et à l'entrée des lycées à Nice comme illégaux.
Alors à Saint-Etienne, c'est la surveillance sonore, là, en l'occurrence.
Ouais. C'est la surveillance sonore. Ce qui démontre, en fait, le compte-rendu de la CNIL montre bien que notre dénonciation de ce type d'appareillage, les caméras intelligentes et autres, sont tous problématiques au niveau légalité. Et on a même le cas d'Alicem. Alicem, qui est une application qui souhaite être déployée par le ministère de l'Intérieur pour créer une identité numérique forte. La CNIL avait mis en garde le ministère de l'Intérieur sur cette application en disant qu'il était illégal. Le gouvernement n'a pas changé une seule ligne au décret et a sorti le décret exactement en l'état. Donc si le gouvernement était aussi attentif aux libertés publiques, au RGPD et aux avis de la CNIL, on n'aurait pas l'ensemble de ces cas qui sont aujourd'hui devant nous.
Alors, ça vous aura pas échappé que je ne suis pas au gouvernement, je suis un parlementaire, et donc je milite justement pour qu'on fasse une expérimentation et qu'on fasse une consultation citoyenne pour justement éviter ce genre de situation.
Justement, en France, l'exécutif veut mettre en place le système Alicem pour s'identifier au moment d'accéder aux services administratifs sur le web. Vous en pensez quoi, Benoît Piédalu? Je pense que j'ai déjà un peu une idée, mais on va en reparler. Didier Bécher, vous êtes un petit peu prudent avec
mais
ça?
Mais qui aujourd'hui, mieux que l'État, peut garantir votre identité numérique? Il y a une vraie question aujourd'hui, compte tenu de toutes les applications qu'on utilise. Et il me semble effectivement que dans son rôle régalien, l'État est bien là pour, à un moment donné, proposer c'est bien la personne, c'est bien l'identité numérique de la personne que nous connaissons à travers. Enfin, on ne se pose pas la question de savoir les données de notre passeport, de notre carte d'identité, de notre permis de conduire qui sont stockées. Dans le cas d'Alicem, on parle de la reconnaissance faciale, mais là aussi, il faut être précis. Est-ce que c'est bien la personne qui est en train de se déclarer? Oui, on enregistre la vidéo, on supprime la vidéo. Donc il n'y a aucune donnée qui ne sont stockées dans le cadre d'Alicem. C'est juste une clé d'entrée parce que c'est une clé solide pour vous reconnaître. Mais encore une fois, on ne constitue pas une base de données avec Alicem ou avec d'autres systèmes.
Benoît Piédalu, c'est pratique quand même ces systèmes.
Alors je suis tout à fait d'accord avec ça. Et effectivement, l'objectif d'Alicem est bien de créer une identité numérique forte, et c'est ça dont il est question sur l'objectif de l'application. Et ce n'est pas du tout le sujet du débat. Le sujet du débat, c'est qu'aujourd'hui, on a une application dont il est sur la définition, le fonctionnement de l'application, utiliser la reconnaissance faciale pour prouver cette identité numérique forte. Ce que la CNIL dit et ce qu'on dit aussi, et ce sur quoi on a fait le recours devant le Conseil d'État, c'est que la CNIL, Alicem impose d'utiliser la reconnaissance faciale pour pouvoir créer cette identité numérique forte, alors qu'en réalité, il y avait d'autres manières de prouver cette identité numérique, par exemple en allant à la mairie ou à la préfecture d'à côté pour montrer sa carte d'identité, ce qui permettrait de valider l'identité numérique.
Est-ce que c'est la facilité du procédé, du système qui vous inquiète, Benoît Piédalu? Est-ce que c'est trop simple? C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Au lieu de se mettre devant son ordinateur, il faut aller jusqu'à la mairie, jusqu'à la préfecture.
Non, il y a très certainement d'autres méthodes possibles encore qui pourraient être simples. Là, on parle vraiment de la reconnaissance faciale. Le problème, c'est une banalisation de la reconnaissance faciale. Alors, c'est illégal parce qu'il n'y a que la reconnaissance faciale qui est mise en place dans le cadre de cette application.
C'est une expérimentation, je rappelle.
Et que c'est interdit par le RGPD.
C'est pas encore en place.
Donc
oui.
déjà, c'est illégal. Et en plus, il y a un risque de banalisation, de dire, vous voyez, cet usage est sympa et tout, et puis demain, avec diverses expérimentations, on dira, vous voyez, c'est quand même assez simple, et puis on va l'utiliser de plus en plus.
Ce qui est intéressant dans ce cas-là, juste pour en un mot, c'est que le même Conseil d'État, dans son rapport du 3 octobre, qui est absolument essentiel sur la transformation de l'État, montre, en fait, explique que le ministère de l'Intérieur devrait justement utiliser beaucoup plus largement l'expérimentation en faisant appel à des académiques, etc., donc ce que nous recommandons dans le cadre de l'Office des sciences et technologies, pour s'assurer que les expérimentations qu'il mène ne donnent pas l'impression qu'on fait quelque chose de secret dans un coin. Et donc d'ouvrir largement ce type d'expérimentation, et c'est exactement ce que nous proposons, hein, ouvrir largement les expérimentations et la consultation citoyenne, encore une fois consultation effective, pour s'assurer que chacun puisse se positionner en connaissance de cause. Aujourd'hui, la pédagogie sur qu'est-ce qu'est la reconnaissance faciale, qu'est-ce que ça couvre, quels sont les cas d'usage, nécessite d'avoir un grand débat pour que chacun puisse dire « ça, je veux bien, ça, non, je ne suis pas prêt ». Et je suis certain que dans les résultats, on serait très étonné de ce que les Français souhaitent, en particulier en matière de sécurité. Et c'est pas parce qu'on fait une, une consultation citoyenne, ça n'est pas un référendum, une consultation citoyenne, qu'on met en place forcément tout ce qui aura été dit ou exploité dans la consultation.
Peut-on imaginer une utilisation restreinte et encadrée par la loi, comme vous l'évoquez, Didier Bécher, pour certaines catégories de personnes? Exemple, les personnes fichées pour soupçon de radicalisation terroriste. Il y a 20 000 personnes actuellement sur le FSPRT, qui est le fichier qui rassemble les gens qui sont un petit peu surveillés. Elles ne peuvent pas toutes être surveillées en permanence, 20 000 personnes. On ne peut pas mettre un policier 24 heures sur 24 derrière ces personnes. Est-ce qu'on pourrait imaginer, avec les protections juridiques qui vont avec, qu'on surveille ces gens-là via des technologies de reconnaissance faciale dans l'espace public? Ça vous fait peur, ça, Benoît Piedalou?
Le problème, c'est que aller dire qu'on va essayer de suivre les fichiers S ou autres personnes dans l'espace public avec de la reconnaissance faciale, ça veut dire installer de la reconnaissance faciale dans l'espace public. Mmh. Donc, une fois que vous avez votre système qui est mis en place avec le suivi des personnes, la détection automatique, enfin tout ça par des milliers, des millions de caméras dans l'espace public, en fait, vous savez très bien que demain, d'autres personnes vont arriver au gouvernement, d'autres personnes vont dire « Ah, ben, il y a un attentat, il faut absolument augmenter la sécurité ». Et en fait, les classes de personnes qui vont être surveillées à travers la reconnaissance faciale vont augmenter petit à petit. Et on le voit dans toutes les bases de données, elles sont ouvertes petit à petit à d'autres catégories de personnes.
Pas les bases de données qui touchent à la sécurité, absolument
Didier
pas.
Bécher, c'est possible ou c'est...
Non, mais dans la fiction,
les bases
possible.
De données de génétique ont été ouvertes petit à petit.
La position de la France sur ce sujet-là, c'est que ouvrir une base avec des personnes qui sont fichés, quelle que soit la raison, ça, on peut parler aussi des gens qui sont interdits de stade, hein, si on veut faire de la gradation peut-être moins importante ou quelque chose comme ça. C'est forcément sur décision d'un juge. Il n'est pas question, en tout cas dans toutes les discussions que nous pouvons avoir et ce que nous recommandons, il n'est pas question d'ouvrir les bases de données, de croiser avec la reconnaissance faciale, etc. Tout ce qui se touche au croisement d'une base de données, enfin deux bases de données entre elles, deux informations entre elles, se font sur commission rogatoire à travers un juge. Donc le sujet n'est absolument pas là. Et encore une fois, je pense que si on ne fait pas cette large expérimentation entre les territoires, avec des académiques, avec des industriels, des politiques, parce que c'est un groupe qui doit être constitué aussi avec cette réflexion autour de cette révolution, c'est industriel et anthropologique, hein, cette révolution de la reconnaissance faciale avec l'intelligence artificielle, il faut qu'on arrive à se mettre autour de la table. Aujourd'hui, il n'y a aucun cadre juridique qui permet de faire des choses sérieuses en termes d'expérimentation. L'expérimentation de Nice, elle existe, mais elle n'a aucune valeur scientifique. Les expérimentations qu'il peut y avoir, puisque RGPD permet de le faire dans des aéroports, ou autres, n'a aucune valeur scientifique.
Le régime général de protection des données,
RGPD, oui.
Voilà, c'est même donc l'inverse. Aujourd'hui, l'expérimentation de la reconnaissance faciale est interdite. Donc, il y a bien un cadre juridique, elle est interdite. Et ce qui est voulu par le gouvernement et par vous, donc là-dessus, c'est d'ouvrir la possibilité en place la reconnaissance
nouvelle
faciale.
Vérité, les expérimentations en matière de reconnaissance faciale ne sont pas interdites. Dès l'instant où vous respectez le cadre de RGPD, que vous avez fait toutes les analyses qui sont nécessaires, rien, et vous n'aurez d'ailleurs pas de refus de la CNIL puisque c'est pas le cadre, ensuite elle fera peut-être des commentaires. Moi, ce que je dis, c'est est-ce qu'on veut continuer dans la situation où toutes les communautés d'agglomération vont commencer à faire des expérimentations et on sait que le niveau de connaissance des élus sur ce sujet est très faible, donc oui, à un moment donné, il pourrait être amené à faire des bêtises, comme typiquement le cas des lycées. Enfin, c'est quand même, ce sujet est quand même énorme. Il y a quand même quelqu'un qui a eu l'idée, à un moment donné, de mettre de la reconnaissance faciale sans se poser la question des élèves, des parents, de l'éducation nationale, des enseignants. Enfin, on cumule quand même là le fantasme. Et heureusement que la CNIL s'est prononcée. Et si on veut éviter tous ces cas-là, il faut donner un cadre beaucoup plus strict d'expérimentation. Encore une fois, une loi d'expérimentation, ça définit qui, à quel endroit et pour faire quoi. Et une fois qu'on aura fait ces 2 ans ou 3 ans d'expérimentation, on verra dans ce cas-là si nos algorithmes sont capables de faire des choses ou est-ce qu'au contraire, ça ne fonctionne pas et qu'il y a des biais et que donc il n'y a pas nécessité de déployer la reconnaissance faciale.
Merci Didier Bécher, merci à vous Benoît Piedalu d'avoir participé à cette émission. Merci à toute l'équipe du débat du jour, Florence Ponce à la coordination, Simon Carteret à la documentation et à la réalisation aujourd'hui, Fabrice Violet. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter et nous podcaster sur RFI.fr et sur nos applications mobiles comme RFI Pure Radio rubrique émission. Le prochain débat, c'est demain, même heure, même endroit, un peu raccourci, il y aura du football. Bonjour chez vous.
Appelez-nous, exprimez-nous.